Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur cette libre antenne, heureuse de partager avec vous ce moment un peu particulier où les choses se posent, où quand on ne dort pas, on pense et on repense notre vie d'hier, notre vie d'aujourd'hui, ce que sera demain. Chaque soir, quand la journée se termine et qu'on fait le bilan de cette journée, c'est aussi un peu comme si on regardait en arrière pour voir où on en est, ce qu'on est en train de faire de notre vie et où on aimerait vraiment aller. Que sont devenus les rêves de la petite fille, du petit garçon que vous étiez? Quelles sont les peurs qui ont fait fuir vos envies? Qu'est-ce qui fait que quelquefois vous avez l'impression d'être tiré en arrière plutôt que poussé en avant? Et surtout, comment faire pour vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous rend malheureux? Le premier pas à faire sur ce chemin de la libération, vous pouvez le faire en osant. En osant dire ce qui ne va pas fort, en osant dire ce de quoi vous souffrez, en osant demander de l'aide, en osant parler. C'est aussi pour ça que cette libre antenne existe, pour vous offrir un espace comme un fauteuil confortable, dans lequel vous pouvez venir vous installer et nous parler de vous, déposer votre fardeau et partager avec nous vos émotions. Je suis là pour vous accueillir, vous écouter et, si possible, vous apporter un éclairage différent qui vous permettra, je l'espère, de trouver d'autres chemins. Et parce que l'expérience de chacun enrichit les autres, parce que nous sommes tous des êtres humains qui essayons de faire de notre mieux, vous pouvez aussi participer à cette libre antenne en réagissant à ce qui se dit par SMS ou par mail. Les partages positifs, les remarques constructives et les conseils pratiques sont toujours les bienvenus. Si vous souhaitez passer à l'antenne, appelez-nous au 3921. Amandine et Hassan vous attendent au standard. Pour les SMS, vous faites le 7-39-21 en commençant par le mot nuit. Juste un mot pour vous rappeler que demain soir, notre thème sera les animaux et le bien qu'ils nous font. Si vous voulez témoigner, inscrivez-vous par mail à l'adresse suivante libreantenne@europe1.fr, libreantenne en un seul mot, @europe1.fr. Votre libre antenne commence maintenant sous la houlette ce soir d'Andreas Papadian et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et le premier appel que je vais prendre ce soir, c'est celui de Patricia avec qui nous allons parler d'héritage et de tout ce que ça soulève. Et on ouvre donc cette libre antenne de samedi soir avec vous, Patricia. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir Sophie, merci de m'accueillir.
Alors moi c'est Sabine.
Sur votre antenne. Pardon ?
Je dis moi c'est Sabine.
Sabine, d'accord.
C'est pas grave.
C'est pas grave, en tout cas. Merci pour votre émission qui fait beaucoup de bien, que j'ai pas l'occasion de suivre tous les soirs, mais en attendant, lorsque j'en ai l'occasion... Je suis fidèle et...
C'est gentil. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en podcast aussi, n'importe quand.
D'accord.
Où vous voulez, quand vous voulez, on est en podcast.
Oui, tout à fait.
Alors, je vous écoute, Patricia. Quelle est votre histoire?
Voilà. Donc, moi, j'appelle concernant donc un héritage qui n'en a pas été un, en tout cas, qui n'a pas été celui escompté. J'ai eu l'occasion de rencontrer un membre de ma famille de manière occasionnelle à la suite d'une demande de mon papa qui savait que je descendais dans le sud. J'habite en région parisienne. Mmh. Et mon papa m'avait demandé, on allait rendre visite à sa petite cousine qui habitait donc dans le secteur. J'avais une vingtaine d'années, je n'étais pas vraiment très emballée d'aller à la rencontre de quelqu'un que je ne connaissais pas, surtout à 20 ans.
Quelle différence d'âge y avait entre vous à ce moment-là?
Une bonne trentaine d'années.
Oui, donc a priori, ce n'était pas très attirant pour la jeune femme que vous étiez.
Tout à fait. Mmh. Et malgré tout, moi, j'y suis allée parce que, je voulais faire plaisir à mon papa. Et puis, après tout, c'était intéressant de rencontrer quelqu'un d'inconnu et Et tout s'est très bien passé. Tout s'est passé vraiment de manière extraordinaire, même. C'est bien que nous avons gardé contact et même nous avons été vraiment très très proches, puisque je n'ai pas perdu contact jusqu'à ce jour. Hein. Tous les ans, je me rendais régulièrement donc chez ma petite cousine, hein, en famille. Mes parents sont descendus également. Voilà, nous avions des échanges téléphoniques régulièrement. On s'est changé des photos, plein de choses, quoi, voilà.
Elle était quoi pour donc, vous, un peu comme une tante?
Oui, mais voilà, une tante éloignée, puisque c'est une petite cousine. Donc, c'est la cousine de mon papa. Et pour moi, c'est donc une petite cousine. Un peu comme une tante, comme une seconde maman, quoi. Quelque part, c'était un petit peu ça, puisqu'elle était mariée. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfant, tous les deux. Voilà, ils n'avaient pas de frères et sœurs non plus, chacun de leur côté. Donc, j'étais un petit peu... un peu comme leur fille. Voilà, c'est ce qu'elle n'arrêtait pas de me dire. Mmh. À chaque fois, j'étais son rayon de soleil, sa fille qu'elle n'avait pas pu avoir. Et c'était vraiment très chaleureux et c'était très bénéfique et pour l'une et pour moi. Voilà, c'était que du bonheur. donc, je suis descendue en famille avec mon mari, mes enfants. Donc... Elle était heureuse de savoir que quelque part nous avions réussi à reconstituer un petit bout de cette famille qui s'était retrouvée éparpillée puisque nous sommes d'origine polonaise.
D'accord.
Voilà.
Et votre maman est toujours vivante?
Ma maman, oui, oui, oui.
Et comment est-ce qu'elle a pris cette relation-là? Il n'y a pas eu de jalousie entre elles?
A priori, elle m'en a jamais fait part. Il ne me semble pas. Nous sommes une famille, nous, en revanche, et mes parents, tous très soudés, très famille, très proches les uns des autres, avec aucun souci familial. Enfin, voilà, on s'entend tous très bien, entre frères et sœurs, on s'entend très bien avec nos parents. Et tout va très bien. Enfin,
donc,
voilà.
L'ambiance était saine?
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Mais seulement, juste, maman me disait que moi, elle ne sentait pas trop cette personne. Elle ne semblait pas... Il y avait quelque chose qui la... Bon, voilà. Elle ne savait pas comment l'exprimer, mais qui ne semblait pas sain. Et mon père également. Après coup, il m'a dit, mais oui, j'ai demandé d'aller voir ma petite cousine, mais je n'ai pas demandé d'y aller tous les ans non plus. Mais moi... j'avais mordu à l'hameçon. Et voilà, c'était un besoin... C'était nécessaire, c'était qu'elle était différente de ma mère, ils étaient différents de mes parents, et pour moi c'était un peu complémentaire.
Mmh. C'était une relation enrichissante en tout cas.
Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Elle était vraiment tellement différente de ce que j'avais avec mes parents et ma famille, mes frères et sœurs, que oui, c'était enrichissant, c'était différent et... Et on était bien ensemble, quoi, voilà. Mmh. Voilà. Et il y a 2-3 ans, ma petite cousine a perdu son mari de mort brutale, hein, en fait, un AVC, donc quelque chose qui ne prévient pas. Et elle s'est retrouvée complètement secouée, comme on peut l'imaginer, à 80 ans. Hein. Et à ce moment-là, j'ai bien ressenti que, n'étant pas sur place, je ne pouvais pas l'assister au quotidien. Hein, puisque j'étais moi-même maman avec des enfants en région parisienne avec un travail. Bon, bref, je ne pouvais pas être sur place pour l'aider.
Est-ce qu'elle vous l'a demandé?
Elle me l'a souvent fait comprendre plusieurs années auparavant en me disant « Demande ta mutation, viens travailler dans le Sud ». Voilà, mais bon, moi c'était juste professionnellement parlant pas possible. Mmh. Donc, je l'aimais beaucoup, mais j'avais aussi ma propre famille qui passait avant tout. Hein. Voilà. Et lors du décès de son époux, a ressurgi et réapparu. Enfin, je sais pas, j'ai pas les bons mots là, je suis un peu un peu émue de passer l'antenne déjà. Une ancienne une petite cousine comme moi, avec laquelle elle était fâchée depuis 30-40 ans, je ne sais pas exactement. Mm-hmm. Elle nous en avait parlé, mais sans plus. Et cette petite cousine, donc qui se situe au même niveau que moi, petite cousine, habite juste à côté de chez elle. Et du jour au lendemain, cette petite cousine s'est occupée de notre cousine à toutes les deux au quotidien.
Oui, elle a pris une place que vous n'avez pas prise à ce moment-là.
Voilà, exactement. D'accord. J'ai l'impression qu'elle a pris ma place.
En même temps, vous n'y êtes... Enfin, oui. Enfin, allez bout de l'histoire, on va en reparler alors.
Voilà, non, tout simplement. Donc, je me suis sentie un petit peu... j'étais pas bien parce que je pouvais pas être là. J'avais moi-même des obligations. Et donc, je me suis retrouvée... un peu comme dépossédée, quoi, mise à l'écart. Voilà, mise à l'écart. Et après quelques mois, donc, je suis retournée la voir. Et c'est vrai que cette petite cousine, quasiment, elle vivait chez ma cousine, quoi. Elles étaient toutes les deux ensemble tout le temps. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'était bien qu'elle puisse être là, à ce moment-là. Mais je pense qu'on aurait pu toutes les deux trouver un compromis et puis essayer de d'être là tous ensemble, chacun son tour et moi.
Qu'est-ce qui vous a gêné, puisque vous me disiez vous-même que vous n'aviez pas le temps et que vous aviez une famille en priorité? Pourquoi ça vous a posé problème que quelqu'un d'autre le fasse si vous ne pouviez pas le faire?
Parce que ma cousine, en l'occurrence, m'avait laissé entendre qu'elle était embêtée, mais à défaut d'avoir quelqu'un d'autre sur place, elle s'est laissée prendre en charge par cette personne-là qui est totalement disponible et à la retraite et habitant à proximité.
Non, mais ça, vous venez de me le dire, mais la question que je me pose, c'est où est le problème?
Le problème... c'est que je suis retournée voir ma cousine et j'ai bien senti qu'il y avait plus cette affection.
Oui, elle l'avait reportée sur quelqu'un d'autre.
Voilà, mm-hmm. Tout à fait. Ça a été très douloureux et ça a même été tellement douloureux qu'elle m'a dit deux, trois phrases qui n'étaient pas du tout sympathiques. C'est bien que j'ai pris la décision de partir. De ne pas rester à ce moment-là sur place, puisqu'il y avait toujours cette tierce personne qui était là constamment, 24 heures sur 24. Elle dormait sur place, elle était là toute la journée, toute la nuit, enfin voilà quoi. Donc je me suis vraiment pas sentie... j'étais chez ma cousine comme chez moi, et du jour au lendemain, je me suis sentie plus du tout acceptée et appréciée. Bon voilà, néanmoins, je suis remontée sur Paris. Nous avons quand même continué à échanger des appels téléphoniques, etc., etc. Il y a 3 mois, ma cousine est décédée. Et lorsque nous sommes allés chez le notaire, il s'avère que sur le testament, elle ne mentionnait nullement. Mmh. J'étais inexistante, j'étais évaporée. J'ai même pas un mot de remerciement, il n'y a même pas un mot gentil ou quelques phrases pour dire que j'étais soi-disant son rayon de soleil pendant presque 40 ans et du jour au lendemain, je suis même pas mentionnée quelque part, voilà. Et ça m'a complètement...
Est-ce que ça veut dire que l'autre personne a hérité de quelque chose?
Oui, de tout.
De tout?
De tout. De tout, tout, tout.
Mais est-ce que pour vous c'est un problème d'argent?
Non.
Ou de bien.
Justement.
Non.
Justement, c'est pour ça que je vous appelle, parce que si c'était que ça, ça serait plus simple pour moi, si je puis dire. Mais là, je me sens carrément trahie, trompée. J'ai l'impression qu'on m'a joué la comédie pendant presque 40 ans, et ça, c'est douloureux à vivre au quotidien. Je ne sais pas comment tourner la page par rapport à ça.
Le problème, c'est qu'il faudrait savoir quelles étaient les intentions de cette personne qui est venue. Est-ce qu'elle est vraiment venue pour aider ou est-ce qu'elle a senti venir l'héritage?
Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir.
Ça, c'est important d'entendre l'histoire parce que l'intention change toute l'histoire.
Comment savoir? Et de toute façon...
Est-ce que des gens proches la connaissent, cette femme?
Mais moi, je ne sais pas du tout dans le secteur géographique. Je ne connais personne.
Cette autre cousine là, qui a refait surface à ce moment-là, est-ce que des gens de la famille la connaissent? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des valeurs? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a voulu profiter d'une situation? Vous ne savez pas du tout?
Non, justement, malheureusement. Enfin, moi, j'étais la seule famille proche de ma cousine et il n'y avait personne d'autre que moi. Et du jour au lendemain, j'ai été supplantée comme ça, de manière un peu brutale.
Qu'est-ce que disent vos parents? Vous avez tout à l'heure dit, mon père m'a dit, de toute façon, je ne la sentais pas et ma mère aussi.
Oui,
ça veut dire quoi?
Voilà.
Comment est-ce qu'ils ont pris ça, eux?
Mes parents m'ont tout simplement dit que de toute façon, c'était pas grave, que nous étions une belle famille, qu'on s'entendait très bien, que c'était ça qui était le plus important. Voilà.
Et vous, ça ne vous suffit pas?
Non.
Non.
Non, parce que moi, c'était long, 40 ans presque. Hein. J'en ai 58 aujourd'hui. Je l'ai rencontrée à 20 ans. Donc, il s'en est passé des choses. Entre-temps, j'ai divorcé. Elle a été là. Elle a vécu de manière lointaine. Mais en tout cas, forcément, je lui ai parlé de tout ça, de mon changement de vie. Toutes ces épreuves que j'ai dû traverser. Et je comprends pas. Voilà, je comprends pas qu'elle ait même pas eu un mot dans le testament, une phrase, un paragraphe, un chapitre me concernant, en me disant voilà qu'elle avait quand même qu'elle m'a remercié.
Que vous aviez compté pour elle, quoi.
Voilà, de tout bonheur, parce que quand j'arrivais là-bas, les bras ouverts, elle m'avait même dit de toute façon, ben cette maison, elle sera pour vous, pour la famille, nani naner. Enfin bon, bref. Et puis bon, moi c'était oui, si tu veux, et puis c'est tout, quoi. Enfin, bon, bref, moi j'étais pas là non plus.
Patricia, pardonnez-moi, je dois faire une courte pause.
Oui.
Ne quittez pas, je vous récupère dans un tout petit instant.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Patricia, vous êtes là?
Oui, Sabine,
je suis là. Si j'ai bien compris votre histoire, en fait, vous vous êtes sentie spoilée, ou ça m'apprendra à vouloir dire des mots difficiles à prononcer. Trahie, on va dire, sur le plan financier, parce que vous n'avez rien eu, et surtout sur le plan moral, parce que c'est comme si finalement 40 ans de relation n'avaient pas vraiment existé, quoi.
Oui, mais même trahie, pas sur le plan financier, mais même trahie, surtout sur le plan psychologique, moral. Enfin, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir fait confiance à quelqu'un et j'aurais peut-être pas dû faire confiance, quoi.
Mais maintenant,
je me demandais si ça a été réel, si ça a pas joué un jeu, si ça a été vraiment sincère avec moi.
Mais pendant ces 40 ans, elle vous a quand même apporté beaucoup de choses. C'était pas à sens unique.
Enfin, moi je pense qu'elle doit avoir beaucoup plus apporté.
Alors pourquoi est-ce que vous l'avez fait pendant ces 40 ans?
Je ne veux pas dire que c'était un devoir par rapport à mon papa, qui est âgé et qui, quelque part, je faisais un peu le lien entre la famille du Nord et la famille du Sud. Mais non, on avait quand même, j'avais fini par créer forcément des affinités. Il y avait quand même une complicité, même si on n'allait pas, on n'a peut-être pas eu de conversation suffisamment approfondie. Je pense que je me suis laissée je me suis fié trop aux apparences. Peut-être que j'aurais dû, à certains moments, être plus...
J'ai un peu de mal à vous suivre, parce qu'à part, ce problème d'héritage, elle vous a rien fait de mal pendant ces 40 ans. Je pense que vous y avez trouvé aussi votre compte. Si vous avez maintenu cette relation pendant si longtemps, c'est que ça vous convenait.
Mais moi, j'aurais bien aimé qu'elle ait un mot pour moi avant de mourir.
Certes, mais on peut envisager aussi qu'une dame très âgée qui va mal en fin de vie s'accroche à la personne qui est là tout de suite et puisse effectivement, pour une raison qui nous échappe, occulter tout le reste. Ça peut aussi se comprendre. Si elle était très mal et très âgée, Quelquefois, on a des comportements qui peuvent paraître injustes. Mais ce qui il me semble que si vous vous accrochez, on ne pourra pas changer ce qui s'est passé. Personne ne peut changer ça.
Ah oui.
C'est terminé.
Oui.
Donc si vous ne lâchez pas prise et que vous vous accrochez à quelque chose que vous n'aurez jamais, vous allez signer un passeport pour être tout le temps malheureuse. Je ne pense pas qu'il faille remettre tout en question. Effectivement, pendant 40 ans, il y a eu une relation. Et une fois de plus, je pense que vous y avez trouvé aussi votre compte, sinon vous n'auriez pas prolongé cette relation-là. Il y a une énorme déception parce qu'elle ne vous a pas reconnu. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de reconnaissance morale là-dessus. Bon, bah, oui, ce n'est pas juste, c'est vrai. Mais en même temps, quel âge avait-elle cette dame quand elle a commencé à être malade?
Elle est décédée à 85 ans.
85 ans, oui. Et donc, ça allait, après la mort de son mari, si j'ai bien compris, elle allait vraiment très mal.
Ben oui, forcément, parce qu'un AVC, c'est quelque chose...
Mais voilà, c'est brutal.
De brutal, qui ne prévient pas, enfin voilà. Donc ça, effectivement, elle était sous choc.
Quelle que soit l'intention de cette femme qui s'est immiscée dans sa vie, on n'en sait rien, on ne va pas la juger, on ne la connaît pas, puis on n'est pas du tout là pour ça. Soit son intention était effectivement extrêmement intéressée, et ben voilà, elle a réussi son coup, soit ça n'était pas le cas, et il se trouve que cette dame âgée qui était mal s'est accrochée à elle, et peut-être au dernier moment, voilà, n'a pensé qu'à elle. Ce testament, il a été écrit à quel moment, vous le savez, ça?
Oui, il a été fait 3 semaines après le décès de son époux. Donc, ce qui veut dire qu'elle elle a effectivement fait ce testament à une personne qu'elle n'avait pas revue depuis 40 ans, 30, 40 ans, enfin, je ne sais pas.
Au moment où cette personne est arrivée dans sa vie.
Oui, voilà.
Oui, alors il y a peut-être effectivement manipulation, on n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, malheureusement, si vous accrochez à des suppositions et à tout ça, vous allez vous faire du mal. Le seul moyen d'avancer, c'est d'arriver à lâcher prise et vous dire, bah voilà, tant pis. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, je l'ai fait avec sincérité. J'y ai trouvé mon intérêt. Maintenant, j'accuse le coup parce que c'est pas juste. Mais moi, je passe à autre chose. Sinon, ça va vous rendre folle. Hein.
Ah ben oui, forcément, mais bon, c'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est une vengeance? Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'elle avait dans la tête à ce moment-là pour qu'elle puisse m'en vouloir à ce point-là, connaissant ma situation, sachant que je ne pouvais pas me rendre disponible au quotidien, et voilà, enfin, elle connaissait ma vie, quoi. Comment a-t-elle pu
Vous ne le saurez jamais.
Ben, je ne le saurai jamais.
Vous ne le saurez jamais et vous n'allez faire que des interprétations. Et méfiez-vous des interprétations. Est-ce qu'elle avait toute sa tête? Est-ce qu'elle n'a pas été manipulée?
Ah, oui.
On n'en sait rien. Vous partez tout de suite sur la piste de pourquoi elle s'est vengée de moi. Mais vous ne savez pas si c'est de la vengeance. Vengeance de quoi et pourquoi? Il y a 1000 interprétations possibles à un comportement comme ça.
Vengeance de ne pas être là à ses côtés.
Ben peut-être, mais voilà, de fait, vous n'avez pas pu le faire, donc vous n'étiez pas là à ses côtés, et elle a pris parti pour la personne qui était là avec elle.
Mmh.
Point.
Oui,
c'est
oui.
Peut-être aussi simple que ça.
Mmh.
Et vous torturez comme ça, ça ne va malheureusement rien changer.
Oui, mais enfin, moi je me dis que malgré tout ça, elle est partie sans un mot pour moi et ça me fait mal, quoi. Voilà, c'est tout, quoi.
Oui, bien sûr. Mais vous, au moins, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Pour votre père, pour vous et pour elle, pendant 40 ans, vous avez réétabli des liens, comme vous me disiez, vous pouvez être fière de ça. Mais vous savez, quand on attend des autres une solution pour aller mieux, malheureusement, souvent on signe pour son propre malheur. N'attendez rien des autres, n'attendez rien d'elle, même a posteriori. Et soyez fière de ce que vous avez fait, tout simplement. Voilà, vous avez fait de votre mieux. Bon, bah, vous n'avez pas eu la reconnaissance escomptée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur, pas du tout.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'elle n'a pas été capable de reconnaître cette valeur-là.
Ouais.
Tant pis.
Et forcément, après, on se dit, mince, attention. J'ai peur que dans ma vie actuelle, du coup, je devienne méfiante. Et par rapport aux autres, et de changer de comportement après cette expérience douloureuse, forcément ça me trouble, ça me change, et j'ai peur d'être moins généreuse du coup, de méfier un peu de tout le monde et de rester un petit peu...
Alors, c'est là qu'il va falloir reprendre les rênes, parce que l'expérience dans la vie, c'est ce qui vous est arrivé, mais c'est surtout ce que vous allez en faire. Ce qui vous est arrivé, vous n'avez pas la main dessus. Ce que vous allez en faire, vous avez la main dessus. C'est à vous de choisir de ce que vous allez faire de cette expérience-là. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire des deux jumeaux qui avaient un père ivrogne et violent et qui battait sa femme. Et quelques années plus tard, il y en a un des deux qui est devenu violent et ivrogne et qui a dit « Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? J'ai grandi comme ça. » Et l'autre qui est devenu un homme formidable en disant « J'ai eu un père tellement dramatique que je me suis construit à l'inverse. » Deux personnes qui vivent la même expérience en font autre chose. Donc c'est à vous maintenant de choisir ce que vous allez faire de cet apprentissage et de cette expérience-là.
Oui, voilà, c'est tout le problème.
Qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que moi, je veux devenir maintenant que j'ai passé et vécu cette expérience-là ? Qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Et là-dessus, vous avez vraiment du pouvoir. Ressasser le passé, interpréter, réinterpréter, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'aura jamais la réponse.
Mais je sais tout ça, mais c'est plus fort que moi, quoi. Ça s'impose à moi. J'en rêve la nuit, enfin... j'y pense régulièrement, tous les jours.
Oui, j'entends bien. C'est pour ça que je pense qu'il faut vous poser maintenant en vous disant « Ok, maintenant j'arrête de regarder derrière, je regarde devant. Qu'est-ce que je fais de cette expérience-là ? Comment est-ce que ça peut m'aider, moi, à grandir ? À devenir une meilleure version encore de moi-même ? Comment je peux tirer un apprentissage de cette expérience ?» Et vos cogitations se tourneront à ce moment-là vers devant et pas vers derrière, et vers du positif et pas vers du négatif.
Ah oui, tout à fait, c'est ce que je veux surtout pas avoir non plus de mauvaises pensées, ni quoi que ce soit. J'ai pas à juger, c'est juste que je me trouve un peu malheureuse d'être devenue inexistante comme ça du jour au lendemain.
Eh bien, donnez-vous à vous une bonne valeur et une existence. Prenez votre place vous-même, ne l'attendez pas des autres. D'accord, Patricia ?
D'accord, très bien.
Et vraiment, servez-vous de cette expérience pour grandir encore.
D'accord.
Et décidez de ce que vous allez en faire. Je vous embrasse.
D'accord. Merci beaucoup, Sabine.
Bonne soirée. Au revoir. Et vous êtes bien sur la Libre Antenne d'Europe 1. Venez prendre la parole en appelant le 3921. Venez nous parler de vous ce soir. Et c'est l'appel de David que je prends maintenant. Bonsoir à vous, David.
Oui, bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci et merci de me donner la parole et merci pour vos superbes émissions. J'aime vraiment beaucoup votre façon d'amener les choses de façon très très humaine et très très posée, quoi.
C'est très gentil à vous. Merci, David.
Voilà, alors je ne sais pas par où commencer.
Par le début. Soit par le début, soit vous mettez tout sur la table et c'est moi qui fais le tri.
Ouais. On s'était déjà parlé il y a quelques mois de cela. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Il me semble bien quand j'ai vu passer votre fiche. Ouais. Ouais.
Voilà, ouais. Voilà, donc comment vous dire, je suis une personne bon non-voyante, hein, mais bon, j'en fais pas un cas non plus, hein, c'est pas le principal. Je suis quelqu'un d'assez actif, hein, quelqu'un de bon vivant également. Je travaille, voilà, mais le souci que je rencontre un peu, c'est un peu la solitude, quoi, voilà.
Solitude affective, donc pas amicale, si
voilà.
Je comprends bien.
Oui, ouais, tout à fait.
Du côté des copains, ça va.
Oui,
ça
parce
là,
que
ça.
Je suis entouré, j'ai des proches, une famille, pas mal d'amis aussi. Donc oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, quoi.
Et si je me souviens bien, vous faisiez plein d'activités, non ?
Oui, alors c'est un peu tout à fait. D'ailleurs, un de vos auteurs me l'avait un peu reproché par après, à l'antenne. Il disait cette personne, elle ne fait jamais rien. Quand on est handicapé, on peut faire tout seul. Alors, il est vrai, je réponds à ce Daniel, hein, je lui réponds, à tous mes respects, qu'il est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire seul, des choses qu'on fait avec de l'aide. Mais j'ai aussi envie de lui dire, Daniel, sans vous manquer de respect, à main de vivre en ermite, on a toujours besoin des autres, quoi. Donc, qu'on soit voyant, non-voyant, toute catégorie, on a tous besoin des autres dans la vie, quoi. À main de vivre en ermite, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu, pas choqué, mais ça m'a, un peu dérangé.
Je pense qu'il y avait peut-être une petite pointe de jalousie ou quelque chose dans ce.
Je ne sais pas.
Il était mal luné ce soir-là, on va dire. Allez, c'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
On va pas s'en
Concentrons-nous sur le positif.
Exactement, tout à fait. Ouais.
Donc, si je comprends bien, vous êtes... je peux donner votre âge, David ?
Oui, 45 ans.
45, ouais. Donc vous êtes en pleine force de l'âge ?
Ouais, on va dire ça.
Vous êtes plutôt sympa, vous avez des copains, vous travaillez ?
Oui, je travaille dans le milieu culturel. Ouais. un service de lecture publique.
Mais alors, l'âme sœur, elle se fait désirer?
Voilà, ben oui, bon, j'ai déjà eu des histoires, hein, pas beaucoup. J'ai eu pas mal de tentatives aussi qui ont échoué, notamment par le canal des annonces journaux, et ça, malheureusement, j'en ressors assez déçu. Parce que souvent, on tombe sur des personnes soit déjà instables en elles-mêmes ou alors pas très intéressantes. Et malheureusement, la seule personne vraiment sérieuse sur laquelle, à qui j'avais un peu, qui avait répondu à une annonce, c'était en 2014, assez longtemps déjà. On avait conversé par téléphone et bon, j'étais à la veille de partir pour des vacances de Noël à l'étranger. Je m'étais promis de la rappeler. Et malheureusement, quand je suis revenu, j'ai constaté que j'avais malheureusement perdu son adresse, ses coordonnées. Voilà, j'ai cherché vainement. J'avais qu'un nom, qu'un prénom, donc je pouvais pas aller bien loin. J'ai cherché une fois, je suis tombé sur une mauvaise personne qui m'a dit non, je ne suis pas la bonne personne, vous vous trompez. Et là, récemment, je suis retombé sur comme cette personne est traductrice-interprète, je suis tombé sur un site internet qui recensait un peu des traductrices, tout ça, traducteurs, et j'ai trouvé le prénom qui correspondait à peu près, voilà. Donc j'ai envoyé un mail par un formulaire de contact et un courrier parce qu'il y avait une adresse aussi. Mais j'ai pas de réponse, alors je sais pas si c'est la bonne personne et en même temps j'ai pas envie non plus de l'accaparer. Et en même temps, voilà, si c'est la bonne personne que je recherche, après elle a peut-être fait sa vie aussi, je sais pas. Bon, le temps a passé. Et c'est vrai que peut-être que ma demande a peut-être été peut-être pas perçue, j'en sais pas, parce qu'au bout de 5 ans, revenir sur une conversation d'il y a 5 ans, je le dis, c'est peut-être incongru, ça vous paraît peut-être incongru, mais pour moi c'est sincère, et je lui avais expliqué, en ne sachant pas si c'était elle, un peu le contenu de notre échange, et que j'avais trouvé vraiment très sympathique, et que malheureusement il y a eu cette chose-là que j'ai perdu ses coordonnées, malheureusement.
Bon, voilà, en tout cas, ça n'a pas marché. Moi j'ai tendance à penser que les choses qui doivent se faire se font dans la vie.
C'est ce qu'on me dit toujours.
Et qu'à force de rester le nez sur une porte fermée, vous vous rendez pas compte qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes à côté.
Donc, ouais, c'est ce qu'on me dit toujours. C'est ce que beaucoup.
Il y a juste une chose dont je me souviens plus, David. Vous êtes non-voyant de naissance ou c'est arrivé
oui,
par
tout à fait.
De naissance.
Ouais.
Donc comment ont commencé vos premières histoires d'amour?
Oh, la première c'était lors d'une fête d'une association que j'avais rencontrée et voilà. Et donc ça s'est fait très 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 naturellement quoi. Toutes mes histoires se sont faites très naturellement quoi. En fait. J'étais venu, je cherchais pas forcément quelqu'un, enfin j'étais toujours un peu en quête quoi. Mais disons que les choses sont toujours faites très naturellement. Alors que pour les annonces, malheureusement, c'est pas naturel. Et souvent ça capote parce que disons que les gens, soit on tombe sur les gens qui sont pas forcément super intéressants. Et la dernière que j'avais en ligne, c'est une personne qui était relativement un peu instable parce que c'est une personne qui était pas très autonome non plus, on va dire. Et je l'avais invité au resto, j'ai dit oui, c'est près de chez moi, oui, mais j'ai pas de voiture, etc., machin. Puis j'ai dit, ah ben, ça va être un peu compliqué. Et puis d'un coup, ah ben non, laisse tomber, on va laisser tomber cette histoire. Et puis après, je reçois des SMS avec des flots de lâche-moi, laisse-moi, des flots d'insultes par téléphone, dont je tairai la teneur, parce que pour vraiment pas le coup. Donc après moi les annonces ça m'a calmé parce que je dis bon c'est pour tomber sur des gens qui sont déjà dans leur tête pas très bien et instables, moi j'ai pas besoin de ça non plus quoi, voilà quoi.
Est-ce que vous avez déjà vécu avec une femme?
Oui bien sûr.
Le plus longtemps que ça a duré c'était quoi?
2 ans.
2 ans.
Ouais.
Et là est-ce que vous êtes dans une optique d'amusement même si c'est tout à fait, c'est pas un jugement hein, mais plutôt de choses assez légères ou vraiment l'envie de vous poser, de vous engager avec quelqu'un?
L'envie de m'engager quoi, après c'est pas forcément envie sous le même toit tout de suite mais il y a beaucoup de couples qui ne vivent pas forcément sous le même toit, qui passent de très bons moments, et moi je pense qu'il faut laisser les choses se faire naturellement quoi. Je pars pas avec des optiques toutes faites, voilà, je laisse les choses se faire. Après, si c'est une aventure qui va durer 2 ou 3 mois, c'est quelque chose qui sera agréable à vivre et tout. Puis si c'est une histoire qui va être beaucoup plus longue dans l'engagement, moi je n'ai pas envie de poser de choses comme ça dès le départ quoi. C'est vrai que moi j'ai envie de m'engager, c'est sûr quoi, de fonder quelque
D'accord.
chose.
Vous ne prévoyez pas, mais vous êtes ouvert quand même.
Tout à fait.
Ouais.
Je suis ouvert à plein de situations quoi. Ouais.
Quelle est la différence pour vous dans les rapports de séduction entre voyants et entre voyants et non-voyants?
Peut-être que un non-voyant va peut-être être un peu désavantagé au départ, je dis bien au départ, parce qu'il y a comme par exemple dans une soirée où il y a peut-être les regards qu'on ne pourra pas percevoir. Quoi.
Alors, qu'est-ce que vous percevez en premier, vous?
Moi, je suis très sensible aux voix.
Mm-hmm.
Je suis très sensible aux voix, Et je me trompe rarement parce que les personnes que je sens ou que je sens pas, généralement, la voix, elle dit beaucoup de choses. D'une part par le ton, par le timbre, et aussi par les arguments échangés, quoi. Moi, je suis très sensible à ça, quoi. Et puis, bon, après, bien sûr, après, au-delà de ça, il y a la teneur de la conversation, évidemment, quoi.
Voilà. Est-ce qu'une voix vous permet de vous faire une idée d'un physique, par exemple ?
Oh, ça, c'est un peu trompeur parce que, bon, c'est pas toujours ça, c'est la...
Des fois, il y a déception sur la marchandise, des fois.
Non, j'irai pas jusqu'à là. Non,
quand même pas.
Jusqu'à là. Moi, le physique, à la limite, ça m'est égal, quoi. C'est pas le premier critère que je vais regarder, quoi. Mais moi, ce que je vais plutôt. La chose avec laquelle je vais être sensible, c'est vraiment le caractère de la personne, voilà, un peu les points communs qu'on pourrait avoir ou les choses qu'on pourrait partager, aussi aller vers l'inconnu. Donc moi, je suis aussi ouvert à aller vers des choses, des centres d'intérêt que je connais pas, que je découvre, hein, parce que c'est ça aussi la relation, c'est de se faire un peu bousculer, un peu entre guillemets, dire voilà, bah tiens, ah oui, toi tu t'intéresses à ça, bah moi je connaissais pas, tiens, bah on pourra partager, on pourra découvrir, quoi.
L'échange est pas...
Exactement, ouais, tout à fait, ouais.
Et ce qui me surprend un peu, c'est dans toutes les activités que vous faites et tous les amis que vous avez, vous devez rencontrer du monde quand même.
Oui, bah après c'est des...
Ou alors vous tournez en boucle avec les mêmes peut-être.
Ouais, bon, moi je fais du sport dans un... Bon, je fais de l'aviron, hein. Après ça reste des relations très amicales, hein, entre sportifs, voilà, partage la même passion, voilà, bon, ça va pas, ça reste des grands moments de rencontre dans le club, hein. C'est très sympathique, hein. C'est un très bon club de copains, quoi. Ça, d'ailleurs, chapeau, quoi, avec un très bon entraîneur. Club de Mulhouse, hein, le Rowing Club de Mulhouse, hein, voilà, pour ne pas citer.
Un petit coup de pub au passage.
Et comment ?
Un petit coup de pub au passage.
Voilà, non mais voilà quoi. Et puis d'autre part, je fais de la course à pied avec un copain, donc voilà, une semaine, par semaine, on fait de la course à pied parce que j'adore ça. Et c'est deux sports que je connaissais, enfin l'aviron, je connaissais pas du tout. La course à pied, j'avais aucune endurance au départ. Puis je me suis mis, puis c'est vrai que ça me plaît, quoi. Donc c'est un épanouissement aussi humain et personnel, quoi, de faire du sport, quoi.
Oui, ça j'entends bien, mais effectivement, c'est peut-être pas des sports dans lesquels vous allez rencontrer des femmes.
Ouais, peut-être. Non, ça, c'est... Enfin, je sais pas, ouais. C'est...
En aviron, vous êtes en équipe masculine, j'imagine ?
Non, pas du tout. Oh, non, je fais pas de compétition, hein. Je fais pas de compétition. Je fais du loisir, hein, uniquement. Donc c'est
mixte
vraiment
en loisir, ça ?
Comment ?
C'est mixte en loisir, l'aviron ?
Ah oui, sur les bateaux, c'est mixte, hein. Je veux dire, il y a tous âges, il y a pas de... C'est vraiment loisir, c'est sortir en club sur des sorties de 10-15 km par sortie, c'est de faire des randonnées. Là, on était à Venise l'an dernier, on était à Lyon il y a un mois. C'est des randonnées sur lesquelles on s'inscrit ou pas, quoi. Hein. C'est facultatif, quoi. C'est vraiment l'envie de chacun, quoi. Voilà.
Et vous avez
des moments de club avec des barbecues, des choses comme ça qu'on partage. Voilà,
vos amis qui vous connaissent bien, qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation ? Est-ce qu'ils ont une explication à ça ? Est-ce qu'ils essaient de vous caser quelquefois en vous présentant ?
Non, parce que c'est... Moi, j'ai beaucoup de... Enfin, tous mes amis ou cousins ou autres sont tous, pratiquement tous mariés, ils ont des enfants, donc ils ont leur vie, quoi. Ben, ils me donnent des conseils, c'est sûr, mais après, bon, ben... Moi, peut-être qu'à un moment donné, je sortais pas assez non plus. Et c'est vrai qu'hier soir, je me faisais la réflexion. J'étais parti avec un copain à la fête de la musique à Mulhouse, quoi. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, merde, c'est vrai que cette ville, elle est quand même sympa. Il y a des choses qui se passent. Il y a une vie culturelle qui est intéressante, même si c'est une ville de moyenne importance, on va dire. Et je lui ai dit, il faut absolument que je me réapproprie ma ville, que je me remette à marcher dans les rues, à aller à la rencontre des gens, à aller dans les endroits que je connais pas, dans les lieux, dans les endroits festifs, des concerts, etc.
Oui, exactement, dans des petits bars sympas.
Ou des petits bars, mais vous savez que j'aime pas trop les bars, j'aime bien, mais seul c'est un peu, je sais pas, j'aime pas trop parce que les 6 personnes, si vous connaissez personne, dans les bars il y a souvent des gens qui sont déjà en groupe et tout. Puis moi je suis un peu timide aussi, quoi. Donc pris d'abord je suis un peu timide, après quand...
Oui, c'est rigolo parce qu'on n'a pas l'impression là. Vous
non, mais bah avec vous non, parce que on se connaît déjà un peu et puis bon, ouais, c'est une relation par téléphone de radio. Mais c'est vrai que pris d'abord je suis timide, mais une fois que je commence à parler, là il n'y a pas de souci. Si la personne est ouverte et tout, que le courant passe bien, là ça va, quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai que pris d'abord j'ai du mal à peut-être aller vers l'autre, à engager la conversation, à... Et comme dit, sans trouver d'excuses, encore une fois, le regard, c'est vrai que c'est quelque chose qui, malheureusement, va jouer dans un premier abord, le regard, malheureusement, il va jouer, quoi. C'est vrai que si vous tiquez sur une fille qui vous plaît bien, vous allez faire un clin d'œil, vous allez, je sais pas, la regarder. C'est vrai que nous, on peut pas faire ça, déjà. On va peut-être plus attendre que les gens aillent vers nous proposent quelque chose ou qu'on commence à discuter, que... voilà, mais après, c'est au début que c'est un peu peut-être compliqué, mais après, ça se décante parce que la concentration aidant, oui.
Peut-être ce qui vous manque, puisque vous êtes actif comme ça, c'est de faire des activités mais où on peut potentiellement rencontrer des gens, que ce soit des ateliers de cuisine, que ce soit du théâtre, peut-être, je ne sais pas, de la danse, vous voyez, des activités où quand même il y a un mix, où on peut rencontrer beaucoup plus de monde qu'en faisant des choses un peu en boucle.
Ouais, peut-être, ouais, certainement,
Parce que là, dans le
ouais.
club d'aviron, vous connaissez, c'est un peu, c'est une bande de potes, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça,
En
ouais.
course, vous allez courir avec un ami, mais voilà, vous êtes
Voilà,
seul
donc
avec lui.
voilà, c'est ça,
Alors qu'il y a quand
ouais.
même dans une ville comme la vôtre des tas d'activités plus, j'allais dire culturelles entre guillemets, mais qui permettent peut-être de rencontrer quand même davantage de gens de différents milieux, différents horizons.
Oui, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Il faut que j'explore un peu le.
L'inconnu, vous parlez de curiosité, d'inconnu tout à l'heure, donc c'est le moment ou jamais, ça, de vous lancer
Ouais.
dans des choses comme ça.
Ouais, tout à fait, ouais.
Parce que je pense que vous êtes quand même un bon parti, d'après ce que j'entends.
Moi, j'adore voyager, quoi. J'ai toujours adoré ça. Bon, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. J'ai vécu un peu en Argentine parce que j'ai étudié l'espagnol là-bas il y a une dizaine d'années. J'y vais régulièrement parce que j'ai des amis maintenant sur place qui sont un peu ma seconde famille. Et depuis quelques temps, j'effectue aussi des voyages à moto en Asie, en Mongolie, au Sri Lanka.
Voilà, il me semblait bien la moto que
Et
vous m'avez parlé de ça à l'époque. Oui.
ouais,
C'est
là, je
ça
vais
qui avait,
partir
je
en
pense, un peu
Thaïlande.
chatouillé certains
Ouais,
auditeurs. Oui.
en tant que passager, évidemment.
Oui. Ah bon?
Là, je pars en Thaïlande et au Laos en novembre et je rêve vraiment, je rêve d'aller aux États-Unis en moto. Et c'est vrai que j'ai rencontré l'autre fois au salon de la Motor Show à Paris, le salon de la moto et de l'auto, j'ai rencontré une agence qui fait des voyages aux États-Unis. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver un pilote. Et là, c'est vrai que l'agence a fait une très belle opération de communication à mon niveau en publiant sur leur site une petite interview avec moi et en faisant aussi remonter l'interview sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que pour 2019, c'était un peu short parce que, bon, voilà, c'est le temps aussi, il faut que les gens se voient s'ils sont disponibles ou pas. Alors, j'ai dit à la personne qui s'occupait de la com, j'ai dit, écoutez, à la limite, on fait ça plutôt pour 2020. L'annonce, elle est toujours peut-être sur Facebook, je sais pas. Mais c'est vrai que 2020, voilà, ça me paraît peut-être plus abordable pour organiser les choses et pour que les personnes aussi, parce qu'en voyage à moto, ça s'organise pas comme ça, quoi. Ça se prépare, c'est un financement. Voilà,
Bien sûr.
c'est un budget.
Bon, en tout cas, David, vous avez plein de choses pour vous. Est-ce que ce soir, si des auditrices nous appellent, nous écoutent et sont intéressées, est-ce qu'on peut vous transmettre les téléphones?
Ah ben avec plaisir, bien
Alors,
sûr.
je vous rappelle, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez intervenir et si vous souhaitez rencontrer David et lui parler hors antenne, bien sûr, vous faites le 739-21 en commençant par le mot nuit. Vous nous laissez votre numéro de téléphone et Amandine et Hassan transmettront à David.
Une motarde, pourquoi pas, quoi.
Ah, une motarde en plus, ça serait pas mal, ça. Ah oui, c'est pas mal votre histoire, vous faites d'une pierre deux coups comme ça.
Ah ben écoutez, hein, voilà. Moi, je suis quelqu'un, je veux dire en deux mots, je suis un bon vivant, quoi. J'aime bon sur le sport, j'aime la bonne gastronomie.
Le message est passé, David, et je vous
La
promets,
culture, la lecture, le ciné, enfin voilà, plein de
je
choses,
suis
quoi.
persuadée qu'il y aura plein d'appels pour vous ce soir et on va vous les
C'est gentil,
transmettre, c'est
Sabine, c'est
promis.
très gentil à vous.
Je vous embrasse
Moi aussi,
et je
merci,
vous souhaite
merci.
plein de belles choses pour la suite.
Je raccroche du coup, comment?
Pour l'instant, oui, je pense qu'Amandine, oui. Oui. Vous raccrochez, puis
D'accord.
je pense qu'elle vous rappellera si elle est au fur et à mesure
D'accord.
que les messages arrivent. Merci,
Merci.
David.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Samedi à dimanche, nous sommes ensemble sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à passer ensemble pour faire connaissance, nous parler, échanger. Tous les sujets qui vous intéressent sont les bienvenus. Un seul numéro de téléphone si vous souhaitez prendre la parole, le 3921. Si vous êtes seul ce soir, si quelque chose vous attriste, si vous traversez une période de doute, prenez le temps de vous poser et de venir en parler. Vous savez que mettre des mots sur une situation permet quelquefois déjà de prendre le recul nécessaire pour voir les choses autrement. Et puis, si vous avez envie de partager une expérience positive, vous êtes aussi les bienvenus. Il est toujours intéressant de découvrir des parcours de vie, des apprentissages qui peuvent nous éclairer et nous faire grandir. 3921 donc par téléphone et 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Bonsoir Estelle.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette Libre Antenne.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de commencer, féliciter vos équipes, parce que franchement, ils sont vraiment formidables, très gentils, et ils font tout pour faciliter la tâche.
Ils sont adorables. Un grand merci à Amandine et à Hassan d'être là.
Ouais, merci beaucoup. Voilà Sabine, je crois que ce sujet, vous l'avez traité il y a un petit moment, c'était au sujet des dépressions. Voilà, et moi ce que je voulais dire sur la dépression, c'est que si vous voulez maintenant par rapport à avant, où moi je l'ai faite à l'âge de 18 ans, si vous voulez, il y a d'énormes progrès qui ont été faits, parce que moi, avant de trouver que j'avais une dépression qui a été très importante, puisque j'étais hospitalisée et j'ai eu à faire des traitements un peu lourds, si vous voulez, ça m'aimait toujours un petit peu d'abord d'en parler, puis de passer à l'antenne, c'est toujours impressionnant.
Tout va bien, on n'est que toutes les deux. Tout va bien.
Oui.
Non, mais est-ce que je peux me permettre de donner votre âge, parce que qu'on comprenne bien le contexte, en fait?
Oui, ça ne me gêne absolument pas.
Vous avez 70 ans, donc quand vous dites « quand j'ai fait une dépression à 18 ans », effectivement, à l'époque, on avait assez tendance facilement à dire « elle n'a rien, c'est du cinéma, c'est du chiqué », comme on disait.
Oui, c'est ça. Et puis comme en plus, moi, je ne sais pas si pour les autres personnes, ça s'est passé comme ça, c'est que j'avais mal, si vous voulez, à différents endroits du corps. Tantôt c'était la tête, tantôt c'était le cœur, tantôt, bon, bref. Et donc, ça a été très difficile de déceler.
De comprendre.
Donc, il a fallu faire une batterie d'examens avant de savoir que c'était ceci. Mmh. Et en plus, personne ne trouvait.
Vous savez, bien sûr, vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est ce qu'on appelle une dépression masquée. C'est-à-dire, c'est quand une partie de soi trouve absolument inenvisageable qu'on fasse une dépression, le corps explose par différents endroits. Et on a plein de symptômes de maladie qu'on n'a pas en réalité.
Ah d'accord, je ne savais pas du tout.
C'est quand on est en lutte contre soi-même en fait, qu'on n'arrive pas à intégrer l'idée que c'est une dépression, à accepter ça. Et donc on va déclencher des tas de trucs, on a des symptômes à droite, à gauche, une douleur ici, une douleur là, et on passe son temps à voir des médecins, à passer des examens et on ne trouve rien. Jusqu'au jour où on met un nom dessus et le nom c'est dépression.
Oui. Et là, si vous voulez, mon médecin généraliste était en vacances, maman fait venir son remplaçant. Et lui, je ne sais pour quelle raison, il m'a vu 5 minutes et il a dit « c'est une dépression ». Moi, je ne voulais pas encore moins l'accepter parce que je me disais « mais comment il m'a vu, il ne me connaît pas ». Et puis, a fortiori, ben, j'ai fini par comprendre que ça devait être ça, puisqu'on n'avait rien trouvé dans tous les examens qu'on avait fait. Donc à ce moment-là, ben, il a fallu être hospitalisé parce qu'elle était très importante. Et bien sûr, je suis passée par une cure de sommeil. Après la cure de sommeil, ça a été... Bon, mon docteur ne faisait pas ça, mais il est venu quand même à faire ce qu'on appelait à l'époque les narcoses. Je ne sais pas si maintenant comment ça s'appelle. Après la cure de sommeil, ça a été ça. Et puis, j'ai fait également, j'ai vu un psychothérapeute en même temps que j'étais hospitalisée. Et cette dépression a fini par s'estomper. J'avais pris du poids parce que j'avais aussi fait une cure d'insuline.
Et puis, les antidépresseurs font grossir souvent.
Voilà, j'avais énormément pris de poids. Mais bon, mon psychiatre m'avait dit, ne vous inquiétez pas. Vous parlerez ça progressivement. C'est ce qui s'est passé lorsque je suis sortie. Bien évidemment, cette dépression n'est jamais plus revenue. Mais par contre, j'ai ce qu'on appelle maintenant une fibromyalgie.
Donc, votre corps s'exprime autrement encore. Là,
Mais est-ce que c'est la suite de ça? Je ne sais pas. Bon, heureusement que cette fibromyalgie... ne m'handicape pas trop, mais j'ai quand même, depuis que maman a disparu, j'ai quand même un traitement qui me permet, si vous voulez, d'avoir arrêté un peu toutes ces douleurs à nouveau diffuses dans le corps. Donc c'est un gros regret d'avoir fait cette dépression à cet âge-là parce que je m'apprêtais à faire des études. Et ces études, bon, ben, malheureusement, ont été estompées. Et puis après, je ne me sentais plus de reprendre.
Ça vous a un peu brisé dans votre élan de jeune femme qui démarrait sa vie ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez identifié à l'époque ce qui s'est passé pour que vous déclenchiez une dépression ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre vie ? Qu'est-ce qui n'était pas aligné ?
J'avais un papa qui était très sévère et qui m'empêchait de sortir. Ben, je dois dire aussi qu'il faisait des histoires à maman. Donc voilà, tout ça, je me souviens je crois que j'avais 7 ans, mon père était rentré. Il ne buvait pas tout le temps, mais quelquefois, ça lui arrivait. Puis quand il rentrait, il faisait des histoires à maman. C'est très difficile d'en parler. Excusez-moi.
Non, je vous en prie, c'est normal. C'était juste pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans votre vie. Votre lien avec votre maman était très fort, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Il y avait beaucoup d'amour entre vous.
Oui. Jusqu'à présent, elle est décédée il y a... En décembre, ça fera 7 ans et j'ai du mal. Bon, j'ai fait mon deuil, mais si vous voulez dès que j'en parle, j'ai la gorge qui se serre.
Et vous l'avez gardée très longtemps, cette maman ?
Oui, elle est partie presque à 100 ans.
C'est ça, j'étais en train de me dire, c'est quand même une sacrée chance. Vous avez un parcours de vie étonnant, toutes les deux.
Oui, vraiment, oui, parce que je me suis en plus beaucoup occupée d'elle. J'habitais pas loin de chez elle, je l'avais fait exprès, d'être à 5 minutes, parce que je savais qu'elle aurait besoin de moi plus tard. Et donc, c'est vrai que j'ai une très bonne entente et c'est une maman extraordinaire. Il y en a beaucoup comme ça, bien sûr, mais la mienne était très, très gentille. C'est pas comme mon père était méchant, mais bon, il sortait d'une famille, de nombreuses familles, avec beaucoup de frères et de sœurs. Et maintenant, je l'ai compris, si vous voulez, mais à l'époque, à cet âge-là, je l'en voulais beaucoup. De faire souffrir maman, en même temps qu'il la faisait souffrir, il nous faisait souffrir à nous. Donc, c'est vrai que mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir pu continuer les études auxquelles je me préparais.
Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite, alors, dans la vie ?
Mais après, j'ai suivi des cours, enfin, j'ai été à l'école commerciale, où j'ai eu un niveau à peu près, si on compare au lycée, à peu près de seconde. Mais ça ne m'a pas permis, bon, après j'ai été employée de bureau, secrétaire de direction, puis j'ai travaillé dans une caisse artisanale vieillesse. Et puis, quand j'ai voulu partir, parce que c'était bien, mais c'était très sévère. Donc, le directeur était, si vous voulez, toujours sur les employés. Moi, j'étais au service des radiations, si on pouvait dire, des commerçants et des artisans, surtout plutôt les artisans. Et puis, après de là, j'ai travaillé dans un CFA en tant qu'employé de bureau. Et puis ce CFA, si vous voulez, quand il y a eu changement d'élection, il y a eu moins de subventions au CFA. Et là, il a fallu licencier. Et j'ai donc été licenciée pour motif économique. Et après, j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver. Puis je commençais à prendre de l'âge. Donc dans les bureaux, c'était très difficile à cet âge-là. Puis je suis restée à peu près un an au chômage et puis je voulais pas devenir RMiste. Et là, j'ai retrouvé dans l'esthétique et j'ai été conseillère en esthétique pendant à peu près 5-6 ans. Et après, j'ai aussi été... j'ai quitté cette place de conseillère en esthétique pour une autre place, et là, par contre, c'était beaucoup plus difficile à vendre des appareils qui étaient assez chers. Je me suis bien débrouillée, mais là, c'était un peu quelque chose de pyramidal. Et là, ça a été donc difficile, parce que, si vous voulez, le pouvoir d'achat des ménages avait chuté, et donc, les clientes achetaient beaucoup moins d'appareils qui coûtaient quand même assez cher. Et donc, de ce fait, j'ai dû quitter cet emploi parce que, si vous voulez, j'étais mon propre employeur.
Oui, je comprends tout à fait. Mais ce que j'entends, Estelle, c'est qu'en fait, vous avez eu beaucoup de frustration dans cette vie professionnelle. C'est pas du tout ce que vous auriez prévu quand vous étiez jeune.
Non.
Ouais. Et votre vie sentimentale, elle a ressemblé à quoi ?
Ben, je rencontrais un homme un jour en vacances et puis, ben, comme on dit, dans deux villes différentes, je n'aurais jamais cru qu'on se revoie. On s'est revus. Au départ, c'était bien, mais après, j'ai appris qu'il était. Enfin, il me l'a dit, mais très tardivement. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi, qu'il était bipolaire. Puis il était devenu infernal. Tout était sujet à histoire. Il me reprenait parce que c'était un professeur. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que lui aussi au départ. Et puis on est restés longtemps ensemble, si vous voulez. Puis j'ai fini par le laisser. L'année que j'ai perdu maman, un an après, je l'ai laissé parce que c'était invivable.
Et cette dépression, elle n'est plus jamais venue vous embêter ?
Non, non, jamais plus.
Et la fibromyalgie, ça a commencé à combien de temps ? Les premiers symptômes ?
Ben, il y avait encore maman, donc c'est un jour, mon généraliste qui était le même docteur que maman, si vous voulez, je lui dis, docteur, voilà ce qui m'arrive. Et il me dit, d'emblée, il a fait le diagnostic, vous avez une fibromyalgie. Et effectivement, ça s'est révélé que c'était ça. Donc, il y a plus de 7 ans, puisque maman, ça fait 7 ans en décembre prochain. Donc, ça fait plus de 7 ans.
Ouais. Je pense à ça parce qu'on a abordé le sujet il y a quelques émissions de ça, sur la douleur. Et quelqu'un mentionnait la cryothérapie. Est-ce que vous avez essayé ça ? Vous savez, calmer la douleur par le froid ?
Non. Je n'ai pas essayé, mais je n'essaierai pas parce que je suis quelqu'un qui réagit au moindre froid, au moindre chaleur. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter. Alors... Parce que je vous dis ça parce qu'un jour, j'étais avec une amie et on s'était acheté ces boissons très rafraîchissantes avec des glaçons. Et rien que le fait de le boire, j'ai eu une douleur à la tête. Ma copine me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Estelle ? Je lui dis, ben, je ne sais pas, c'est trop froid pour moi. Donc je crains,
Je comprends, mais je pense que ça n'a rien à voir. Le traitement cryothérapie, est encadré. Et ce sont des zones du corps où le corps tout entier, mais c'est extrêmement cadré avec des professionnels qui vous accompagnent. Et ça n'a rien à voir avec la sensation d'avoir un coup de froid ou de boire du froid. Ça permet localement d'apaiser quand même beaucoup les douleurs.
Alors maintenant, j'avoue que j'en ai moins parce que j'étais un jour chez mon cardiologue et quand il m'a vu comme ça et qu'il a vu qu'il n'y avait rien, j'ai eu des poussées de tension jusqu'à 21. Maintenant, elle est bien régularisée, heureusement, mais il m'a donné... comment ça s'appelle ? Des gouttes que donc je peux gérer et il m'a dit que la dose que je prenais, elle était à dose homéopathique, c'est la Roxil.
C'est un décontractant, oui.
Voilà, et là, il est vrai que depuis que je l'ai, si vous voulez, si j'ai une douleur, je la gère beaucoup mieux. Tandis qu'avant, la moindre douleur, ça me mettait dans tous mes états. Donc, je peux dire que là aussi, c'est... j'arrive à le gérer beaucoup mieux qu'avant. Donc les douleurs disparaissent, si vous voulez. C'est vrai que si j'arrête en totalité ou que je ne l'ai pas pris, je le prends que 2 fois par jour, 15 gouttes le matin et 20 le soir. Et c'est vrai que si j'oublie de les prendre les deux matin et soir, si une douleur revient... je me pose des questions, mais j'arrive beaucoup mieux à le gérer quand même.
Ouais, vous avez réussi à trouver un équilibre en fait dans tout ça. Ouais.
Oui, oui.
Ouais. Et c'est vrai, je repense, quand vous avez déclaré cette dépression à l'époque, on ne parlait pas tellement de maladie quand il s'agissait de dépression. Hein.
C'est ça.
Il y avait probablement aussi cette culpabilité de se sentir faible.
C'est ça aussi. Ouais. Et puis surtout de ne pas avoir réussi les études que je m'étais. Si vous voulez, je viens d'un milieu social, je dirais moyen. On n'était pas des gens pauvres, mais pas des gens riches non plus. Et je voulais, si vous voulez, m'élever par des études, en sachant que ces études me donneraient une profession qui me permettrait d'être financièrement à l'aise.
Oui, ça n'a pas été le cas, malheureusement.
Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est, jusqu'à présent, ça a été très bourreux pour moi. Excusez-moi.
Non, mais je comprends. Estelle, ne pleurez pas. Vous n'êtes pas toute seule ce soir. Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui du bonheur dans la vie?
Oui, j'allais dire pas grand-chose, mais non, je ne serais pas honnête en disant ça. J'ai une amie qui est très, très gentille, qui avait travaillé avec moi à la caisse artisanale, que j'ai retrouvée, et nous sommes... Elle est divorcée, elle a une fille, une petite fille, et nous nous sommes retrouvées, nous avons les mêmes goûts au niveau culturel, nous sortons beaucoup, j'ai beaucoup fait de voyages avec elle, grâce à elle, et puis on va au cinéma, on va dans des expositions, et j'aime beaucoup ça, les peintres, etc. Donc, voilà, sur le plan culturel, ça me satisfait pleinement, j'ai eu des amis que j'ai gardé pendant 30 ans, sauf que, si vous voulez, ses amis, on n'avait pas les mêmes goûts, on s'entendait bien, mais pas les mêmes goûts. Là, je suis comblée au point de vue culturel. Voilà. Autrement, ben, grand regret, ben, c'est aussi de ne pas avoir fait cette vie sentimentale.
Et vous pensez que c'est trop tard?
Ben, j'ai de grosses difficultés à rencontrer. Quand je rencontre, c'est toujours quelque chose qui ne va pas. Puis c'est difficile à cet âge-là de rencontrer.
Alors on est plus exigeant en vieillissant, c'est sûr, mais il y a des belles rencontres qui peuvent se faire à n'importe quel âge. Hein.
Et comme en plus, bon, moi je suis de confession israélite, alors c'est encore plus difficile.
Pourquoi?
Parce qu'au départ, j'espérais avoir des enfants, ça n'a pas été le cas, donc je voulais quelqu'un de ma religion pour éviter d'avoir de gros soucis, si vous voulez. Et puis maintenant, dans mon milieu, c'est très difficile. Donc c'est aussi un deuxième regret.
Pourquoi c'est plus difficile que dans un autre milieu? J'ai du mal à comprendre ça.
Parce que je ne fréquente pas vraiment mon milieu pour rencontrer des gens de ma confession. Donc, je commence à fréquenter il n'y a pas très très longtemps. Donc, les gens ont été mariés. C'est très difficile.
Et qu'est-ce que vous aimeriez, vous, maintenant? Si vous vous projetez sur les 10 années qui viennent, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
C'est d'avoir un compagnon. J'aimerais pas terminer seule. Si c'est le cas, mais j'aimerais pas terminer seule. Je trouve que, un compagnon pour aller au cinéma, pour être bien, pour pouvoir discuter.
Mais si vous n'avez pas envie de vous ouvrir un peu à d'autres milieux pour connaître des gens nouveaux, différents?
Oui, mais je sors avec cette amie. Sauf que cette amie, on ne fait que des choses culturelles. Bon, on ne se voit pas aller danser à nos âges.
Et pourquoi?
Elle est plus jeune que moi de 7 ans.
Pourquoi vous ne voyez pas danser? Pourquoi est-ce que vous vous mettez cette barrière-là?
Je ne sais pas.
Comme si c'était réservé aux jeunes.
Parce qu'elle, ce n'est pas son truc. Donc,
aimez-vous?
Elle est toute seule. Moi, je ne me sens absolument pas. Donc, pourquoi ça reste difficile? On fait que des choses à deux. C'est vrai, on sort, on a fait des... Je suis allée avec elle en Bretagne, en Hollande, Amsterdam. Et là, on va repartir en Normandie en septembre. Mais on fait que des choses où on n'est que nous deux. Donc, il est très difficile.
Ah, c'est l'amitié qui est sympathique, mais en même temps, ça vous ferme un petit peu dans un vase clos.
Oui. Donc maintenant, je me suis mise, il n'y a pas très longtemps, depuis que maman n'est plus là, à aller dans mon milieu, mais c'est encore plus difficile parce que les hommes sont mariés quand je vais au temple, donc il est très difficile. Pourquoi j'ai dit c'est difficile? Parce que je ne fréquente pas un milieu, aussi bien dans mon milieu, ça ne me poserait aucun problème parce que je pense... j'ai toujours été très ouverte, des parents très libéraux. Donc là, ça ne poserait pas de problème, mais où pose le problème, c'est que je suis dans un environnement où je ne peux pas faire de connaissances, en fait.
Pourquoi ça ?
Comment ?
Pourquoi ça ? Parce que c'est toujours les mêmes gens ?
Ben oui, je suis toujours dans un cercle d'amis un peu fermé, si on peut dire. Mmh. Et donc, de ce fait, je ne rencontre pas d'hommes, pas de nouvelles connaissances, donc il est très difficile pour cela. Et quoi faire ?
Est-ce qu'il n'y a pas une activité qui vous tenterait, qui vous permettrait de vous ouvrir un petit peu à des nouvelles rencontres ? Que ce soit des cours de dessin, peut-être de la musique, il y a des fois il y a des ateliers, des choses.
Je fais de l'aquagym, mais bon.
Ah, c'est très féminin, ça.
Oui, donc déjà là, il n'y a pas d'homme. Je voudrais faire un peu de marche parce que j'ai beaucoup d'arthrose et j'ai des difficultés à marcher. Donc, il va avoir. Les caisses de retraite organisent le 22 juin, donc dans pas longtemps, samedi prochain, je crois. Ou le. Je sais plus. Ah, je les ai passés. Oh là là, c'était aujourd'hui.
Ah, oh. Zut.
Flûte, je voulais.
Il y en aura peut-être d'autres. Il y a le yoga aussi qui est une activité intéressante, et là, il y a autant d'hommes que de femmes. Hein.
Ah oui, j'avais un peu fait du yoga, puis j'avais abandonné parce que c'était trop loin de mon domicile. Oh là là, j'ai.
C'est pas grave, vous en trouverez une autre. Ce qu'il faut, c'est vraiment penser à vous inscrire à différentes choses, à vous ouvrir de plus en plus à des activités dans lesquelles vous allez rencontrer des gens nouveaux. Et pas des trucs de femmes, parce qu'effectivement, l'aquagym, c'est très bien, mais comme vous le dites, il n'y a pas d'hommes.
Non.
Mais il y a sûrement des activités qui peuvent vous intéresser. Pas avec votre ami, mais vous, juste vous, pour rencontrer des messieurs. Au moins avoir une relation amicale et plus si affinité.
Bien sûr.
Mais il faut faire le premier pas. Il faut trouver des centres d'intérêt, des ateliers, des activités qui peuvent vous ouvrir à tout ça. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Eh oui, je sais. C'est vrai que j'ai un peu de mal de faire les choses seule. Que j'ai toujours eu de vrais amis, voilà. Mais bon, elles avaient d'autres centres d'intérêt. Là, avec cette amie, nous avons les mêmes. Mais c'est vrai que lorsque je sors, ne serait-ce que par exemple, mardi prochain, je vais aller écouter un concert, c'est avec des copines de mon milieu. Mais c'est vrai que c'est encore avec des amis.
Ce qui est très bien, c'est une grande chance, mais développez d'autres choses. Devenez votre meilleur ami, prenez-vous par la main et allez faire d'autres choses aussi.
C'est ce que je vais essayer de faire. Surtout, je voudrais faire quelque chose qui me permette, avec cette arthrose, de mieux marcher.
C'est pour ça que je vous parlais du yoga. Le yoga s'adapte à toutes les situations, à toutes les pathologies. Et c'est extrêmement thérapeutique pour l'arthrose aussi. Tous les problèmes de raideur, d'arthrose, de douleur, ça, c'est une aide extrêmement importante. On apprend la respiration, la souplesse.
Oui, j'avais fait un peu de...
De tai chi ?
Non.
Non ?
Mon Dieu, j'ai souvent dit le nom, qui me permet de me relaxer.
Sophrologie ?
Oui, c'est ça. Mm-hmm. J'avais fait de la sophrologie. Et ça, par contre, ça m'aide bien, parce que... soit si j'ai une douleur, soit si je me réveille, et comme je continue à travailler, donc si vous voulez, ça me permet de me rendormir, et si je fais un peu de relaxation, je me rendors chaque fois. Donc ça...
Vous avez raison, la sophrologie est très bien pour le mental, mais ça ne va pas jouer sur le corps et la souplesse. Hein.
Non, c'est pour ça que je vais essayer de voir le yoga aussi.
Oui, puis de trouver... Vous savez, je dis souvent cette phrase, mais qui est vraie, si vous ne changez rien, rien ne changera.
Donc,
quand on veut voir quelque chose changer dans sa vie, il faut mettre le mouvement en action, faire le premier pas. Et si on est tout seul, on se prend par la main et on se dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien ? Qu'est-ce que moi, là, j'ai envie de faire de ma vie, tout de suite ? Et si c'est possible, on le fait. Et puis on voit ce qui se passe. Et si on se trompe, c'est pas grave, on trouvera autre chose derrière.
Oui,
le meilleur moyen de ne jamais se tromper, c'est de ne rien faire.
Exactement. J'adore vos émissions, d'ailleurs... À l'époque, c'est mon ex-compagnon qui m'a fait connaître. Et quand je peux, bien évidemment, j'écoute. Et je trouve que c'est une émission merveilleuse. Et vous toutes, les psychologues qui prenez la parole, vous avez toujours des mots justes pour toutes les situations, pour toutes les personnes. Et franchement, c'est agréable de pouvoir converser.
C'est gentil, Estelle. Je vous embrasse très, très fort.
Merci beaucoup.
Et puis, je vous envoie plein de bonnes ondes pour que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse du bien maintenant.
Merci beaucoup.
Bonne nuit.
Merci. Bonne soirée à tous les auditeurs et à vous. Merci, au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et j'accueille maintenant Christiane. Bonsoir Christiane.
Bonsoir Sabine.
Merci d'avoir patienté, merci de cette belle patience. Je vous écoute.
Ouais, bah, il faut. Voilà, mais voilà, bah, moi je vous vois pas.
Mais moi je vous entends.
Elle dit dans la chanson, moi je vous vois, et moi je vous vois pas. Voilà.
Alors racontez-moi votre histoire à vous, Christiane.
En fait, moi j'ai appelé déjà hier soir parce que il y a quelque chose qui me tracasse, c'est que j'avais un antidépresseur donc depuis le décès de mon mari il y a 6 ans. Enfin, ça fait peut-être que 5 ans que je l'ai pris après, quoi. Et on m'avait donné, c'était le médecin traitant qui m'avait donné un antidépresseur léger. Et donc depuis février-mars, je vais... depuis l'année dernière, je vois une psychologue au CMP.
Oui.
Et depuis février-mars, je suis suivie donc maintenant entièrement à l'hôpital de jour au CMP. Et puis je vois une psychiatre une fois tous les 15 jours. Et donc récemment, là, elle me dit mais il faudrait augmenter votre antidépresseur. Alors je dis mais pourquoi? Elle me dit, mais cette dose que vous avez, ça sert à rien. Parce que j'avais du 10 mg et elle veut me faire passer à 60 mg. Oh là là, je dis, c'est vraiment beaucoup plus, hein.
Mais pourquoi elle trouve que vous allez mal?
Eh ben, apparemment, ils disent que je suis dépressée. Et pourtant, j'ai été plus mal que ça, parce que j'ai fait 3 ans de dépression quand mon mari est mort. Bon, puis j'ai eu beaucoup de choses difficiles dans ma vie. J'ai eu deux séparations avant que mon dernier mari est mort. Là.
Oui.
Puis des choses difficiles dans l'enfance, tout ça, bon... Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase quand j'ai perdu mon dernier mari. On était mariés depuis 3 ans.
Ah, ça a réveillé beaucoup de douleurs chez vous.
Comment ?
Ça a réveillé beaucoup de choses douloureuses chez vous.
Ah oui, c'était terrible. J'ai l'impression d'avoir été brisée complètement. Un ressort qui a cassé. J'ai l'impression de ne plus être la même. Alors, ça, c'était vraiment très difficile.
Mais ça fait 4 ans que vous êtes suivie maintenant par un thérapeute?
Non, en fait, j'ai été suivie pendant 1 an quand il est décédé, il y a 6 ans, parce qu'il était en soins intensifs. Donc, j'ai une psychologue qui est spécialisée dans le deuil qui m'a suivie. Et heureusement, parce que ça m'a vraiment aidée. Hein. Et... après, elle m'a lâché, parce que je pense que c'était juste peut-être pour le deuil. Après, elle m'a dit, il y a trop de choses, que je lui disais trop de choses. Et bon, elle m'a lâché. Et puis, comme j'allais quand même pas trop bien l'année dernière, là. J'ai décidé d'aller voir une psychologue dont on m'avait parlé.
Oui.
Qui est chrétienne. Donc c'est pour ça aussi que je suis allée chez elle. Quand
vous dites que j'allais pas très bien, c'est toujours le deuil de votre mari qui ne se faisait
ben
pas.
Ben non, c'était plus trop le deuil. Non, mais quand mon mari il a eu sa maladie, Moi, je commençais déjà à perdre la vue. J'avais perdu l'usage d'un œil à cause d'un trou dans la rétine, à cause d'un glaucome. Et puis, ma vue s'est dégradée encore. Là, j'ai plus qu'un dixième et demi. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à accepter ça et à vivre comme ça, toute seule avec ça, quoi.
Oui.
Je suis toute seule dans une maison qui m'a laissé. C'est très difficile à vivre. C'est ma foi qui me soutient. Voilà. C'est ma foi, ça me soutient, quoi.
Donc, vous avez commencé une thérapie avec cette nouvelle
Alors, j'ai commencé la thérapie avec cette psychologue l'année dernière.
Oui.
Et puis après, elle m'a dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas aller à l'hôpital deux jours? Elle m'a dit, comme ça, vous seriez suivi. Et puis, vous auriez des activités, sortir un peu et tout ça.
Seriez moins seule, surtout, oui.
Être moins seule et faire un peu des activités parce que je ne sortais plus, je ne faisais plus rien. Parce que en étant malvoyant, on n'a pas de moyen de locomotion. Hein. Donc, effectivement, ça m'a quand même fait du bien parce que je fais des activités, je vais marcher un peu avec eux, puis ils me guident. Parce que là, moi, pour le moment, je suis un peu isolée où je suis. Et j'ai pas eu encore droit à une aide spécialisée pour malvoyants, mais là, ils viennent d'ouvrir une antenne dans la région où je suis pour une équipe mobile pour la basse vision. Donc, ils vont me prendre en main. Je suis en train de faire un dossier.
J'ai pas bien compris. Vous êtes en hôpital de jour ou pas alors maintenant?
Oui.
Oui, vous avez accepté ça.
Oui, j'ai fait. Bon, au début, je voulais pas trop parce que moi, je veux pas rentrer dans tout ce que le système psychiatrique, tout ça. Je voulais pas trop. Et puis finalement, je me sentais pas trop bien. Et puis je me suis dit, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose, quoi.
Donc là, chaque jour, vous êtes prise en charge depuis 8-9 heures le matin jusqu'en fin de journée.
Non, en fait, j'y vais qu'en demi-journée.
Ah, d'accord.
Donc, il m'avait dit les activités qu'il y avait, puis je pouvais choisir ce que je voulais faire. Donc, j'y vais en demi-journée, sauf le vendredi.
Ok.
Voilà. Et finalement, bon, ma psychologue me dit apparemment que que j'ai changé, que ça a l'air de m'avoir aidé. Quoi.
Ça vous booste un petit peu.
Comment ?
Ça vous booste un petit peu quand même de faire ça.
Oui, je pense que ça m'a quand même aidé de sortir un peu de là. Mais maintenant, moi je me sens quand même, enfin, je me sens un peu mieux quand même que l'année dernière, parce que bon, il y a eu des moments l'année dernière, j'étais vraiment pas bien dans ma tête.
Mmh.
Et j'étais triste tout le temps triste. Je pense que c'est un des symptômes les plus importants de la dépression, la tristesse, et puis le manque de concentration, des problèmes de mémoire. Il y a des moments où c'était tellement confus dans ma tête.
Toute la symphonie de la dépression.
Oui, j'étais pas trop bien. Alors
Est-ce que ce travail que vous faites avec elle vous permet de commencer à mieux accepter ce qui se passe avec vos yeux là? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus?
Enfin, on en parle comme ça, quoi, mais elle me dit, même si, parce que moi j'espère quand même toujours la guérison, elle me dit, mais même si vous guérissez pas tout ça, il faut quand même que vous avanciez, que vous fassiez quelque chose.
C'est aller de l'avant, sinon vous restez coincé au moment où tout ça vous a meurtri.
Ben oui,
et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, la seule solution, c'est l'acceptation. C'est aussi un deuil à faire d'une situation qui n'est plus aujourd'hui.
Je crois que c'était vous qui aviez une fois expliqué ce que c'était l'acceptation, que ce n'était pas baisser les bras. Je ne sais pas si c'est vous qui aviez une fois expliqué ça.
Bon, peut-être, il y a tellement de conversations qui se mélangent.
Mais en fait, voilà, bon, enfin, moi je me pose la question.
Oui, sur le traitement.
Parce que je vais quand même mieux. Est-ce que vraiment, il faut que je prenne... augmenter ce traitement de 10 mg à 60, ça me paraît énorme. Alors après, elle m'a dit, j'ai dit, mais il n'y a pas entre les deux, elle m'a dit, s'il y a du 30.
Alors, vous imaginez bien que je ne suis pas médecin et c'est pas moi qui vais vous parler de ça.
Non, parce que ça... moi, donc j'ai vu des effets secondaires, excusez-moi. C'est en grossi. Il y a marqué sur les notices qu'on peut avoir des pensées de suicide, d'insomnolence, tout ça. Alors moi, ça m'interroge quand même. Moi, j'ai quand même peur. Déjà, j'ai 10 kilos de trop. Je me dis, si je me mets à prendre ça, moi, qu'est-ce que ça va être? Déjà, j'ai du mal à m'accepter, déjà.
Je vous avoue que spontanément, moi, je trouve que le dosage est très important. Effectivement, la majorité des gens qui sont en dépression, quelle que soit la molécule, sont souvent à 10 mg. Peut-être 10 mg deux fois par jour, trois fois par jour. Mais là, on vous augmenterait, c'est fois 6, quoi.
Oui. Je pense que... Vous connaissez la mioséphène?
Non, pas particulièrement, mais les molécules d'antidépresseurs sont dosées à peu près de la même manière. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir un contre-avis quand même, d'aller voir un médecin généraliste ou un psychiatre qui est médecin pour avoir un autre avis là-dessus. Hein?
Alors moi, ce que je lui ai dit, à la limite, je vais vous montrer peut-être de 30, mais pas de 60. Hein.
Non, mais c'est pas un marchandage. Il faut qu'il y ait des raisons précises. Ça reste quand même un médicament puissant. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir un contre-avis là-dessus, vraiment. De comprendre pourquoi elle veut vous doser autant et quel rapport bénéfice-inconvénient pour vous, quoi. Hein? Quand il y a un doute, de toute manière, quelle que soit la situation médicale, quand il y a un doute, je pense qu'il faut toujours prendre un deuxième avis.
C'est un peu difficile pour moi de me déplacer, aller encore ailleurs. Voilà. Il faut que la personne, elle vous suive pendant un bon moment pour savoir.
Pour un dosage d'antidépresseur, je pense qu'un médecin généraliste pourrait vous donner un avis intéressant.
Mon généraliste, c'est pas lui qui va. Il ne m'écoute même pas. Il me demande. D'ailleurs, la psychiatre m'a dit qu'il aurait dû normalement réévaluer avec vous dosage et tout. Il m'a jamais demandé comment j'allais. Ils sont pressés maintenant.
Eh bien, changez-en.
Ah ben oui, mais ah ben si vous saviez, la région où je suis, ils sont tous en train de partir, les généralistes. On n'est vraiment pas perdu ici. Ça, c'est vraiment c'est vraiment une catastrophe. Alors moi, j'y vais. En plus, ils se déplacent même plus à domicile, j'y vais à pied. Et c'est déjà pas évident pour moi d'aller à l'autre bout du village.
Et pourtant, il faut trouver une solution. Alors j'entends bien à ce que je vous dis des oui mais, et j'entends bien qu'il y a des mais il faut avancer. Et je pense pas que ça soit, vous avez des doutes, de toute manière, rien que le fait que vous ayez un doute sur ce dosage fait que vous n'allez pas être à l'aise, ni avec votre thérapeute, ni avec le médicament.
Ma psychologue, elle m'a dit, essayez d'abord un mois, et puis vous verrez bien comment vous vous sentez.
Oui, sauf que c'est pas un bonbon non plus. On sait qu'il faut un petit peu de temps pour que ça se mette en place et beaucoup de temps pour redescendre ensuite le dosage.
Ben, il faut 3 semaines.
Mais oui.
Donc c'est pour ça, elle me dit, essayez de 1 mois, puis vous verrez bien.
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi elle vous propose pas d'augmenter petit à petit le dosage. Vous pouvez passer de 10 à 15, de 15 à 20 tranquillement, quoi.
En fait, la psychiatre, elle me dit que elle me dit, mais vous savez ce qu'il faut comme dosage? Je dis non. Elle dit, mais vous savez pas ce qui est le dosage qui est juste, qu'elle me dit. Elle me dit le dosage qui est juste, c'est ça, c'est 60 mg. Voilà. Ah bon? Elle m'a pas trop expliqué pourquoi.
Alors, je pense à quelque chose, puisque ça a l'air compliqué de vous déplacer ou de faire venir quelqu'un. Vous savez qu'il existe des psychiatres qui donnent des consultations par téléphone.
Ah bon?
Oui.
Ah.
Il n'y en a pas partout. En même temps, le téléphone, on se moque de l'endroit d'où ils sont physiquement. Et peut-être qu'une consultation par téléphone avec un psychiatre, donc qui est formé comme médecin, pourrait vous aider à poser les bonnes questions et avoir un autre regard, une autre approche.
Comment on peut avoir
sur Internet, vous demandez à quelqu'un peut-être de vous aider à trouver consultation psychiatrique par téléphone.
Et vous avez... gratuit?
Non, c'est pas gratuit, mais ça coûte pas cher parce que ça se paye au quart d'heure ou à la minute après. Donc vous pouvez demander à discuter avec un psychiatre pendant un quart d'heure.
On paye ça comment après?
Par carte bancaire, je suppose, ou par chèque. Mais ça peut vous permettre d'avoir une ouverture et de parler à quelqu'un dont c'est vraiment le métier. et qui pourra vous donner peut-être d'autres conseils, à notre regard. Hein.
Mais parce que là, dans le CMP, il y en a plusieurs. Mais ils travaillent, je sais pas.
C'est délicat au même endroit d'aller demander un contre-avis à quelqu'un qui travaille forcément avec elle, quoi. Oui. Je dis pas qu'elle a tort, j'en sais rien, mais simplement, je vous sens, vous, pas très à l'aise. Le dosage me semble très fort, donc je pense qu'un contre-avis serait vraiment important. De toute manière, si vous vous lancez là-dedans avec elle, vous n'allez pas être bien. Parce que vous vous posez plein de questions.
Ah oui. D'autant plus que cette histoire d'idée de suicide, il dit si vous en avez déjà eu avant, soit comme bon, j'en ai eu, mais bon, moi, je n'ai jamais passé avec parce que je suis croyante. Hein. Mais la première femme à mon mari là, qui est décédée, elle s'est suicidée en prenant plein de cachets comme ça.
Est-ce que vous n'avez pas eu d'effet secondaire, vous, quand vous avez commencé ce traitement?
Comment?
Est-ce que vous avez eu des effets secondaires très embêtants quand vous avez commencé les antidépresseurs?
Non, pas avec 10 mg. Non, je n'ai pas eu trop de problèmes.
Bon, c'est déjà plutôt rassurant. Mais ça fait plusieurs
d'ailleurs,
fois...
D'ailleurs, je n'aurais peut-être même pas dû en prendre jusqu'à 6 ans. Hein.
Ça fait plusieurs fois, Christiane, que vous mentionnez la foi.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait vous aider un petit peu à sortir de cette tristesse?
Oh ben... C'est ça qui m'aide. Hein. Mmh. Alors, c'est énorme.
Les prières, les rencontres avec des gens qui pensent comme vous.
Ah oui, normalement, moi, j'ai l'église, je vais tous les dimanches, j'ai des réunions de maison. Et puis, moi, les promesses qui sont dans la Bible, voilà, il faut les prendre pour soi. Parce que,
très bien.
Et ça aide. Moi, j'entends qu'il y a des guérisons autour de moi, il y a des gens qui guérissent par la foi au nom de Jésus-Christ.
Je dirais au nom de qui vous voulez, mais la foi en quelque chose nous aide toujours. Donc faites attention aux médicaments, demandez un contre-avis et tournez-vous vers la lumière et des choses positives pour aller mieux.
Mais la lumière, justement.
Elle est dans votre cœur, la lumière. D'accord, Christiane?
Lui, il est la lumière.
Alors, gardez cette belle lumière en vous.
Mais c'est sûr que la solitude, c'est pas facile quand on est comme ça. Comme il disait le monsieur qui est malvoyant aussi, là. C'est pas facile. Hein.
Oui, je sais.
C'est pour il ça est que... trop jeune, dommage.
Ah, il est trop jeune pour vous?
Mais j'ai 10 ans de plus que lui, là. Non, c'est pas facile. Et puis en plus, je suis quand même assez isolé, là. Maintenant, je vais voir... Avec la basse vision, là, l'équipe mobile, c'est vraiment bien. Ils vont m'installer un logiciel sur mon ordinateur. Je serai peut-être moins isolée, je pourrais peut-être mieux communiquer. Quoi.
Mais j'espère que ça va fonctionner, tout ça.
Moi aussi, j'aimerais bien retrouver quelqu'un. Mais en tant que malvoyant, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un?
Bien sûr, on a plein de témoignages sur cette antenne de gens qui ont rencontré du monde, bien sûr.
Des malvoyants?
Bien sûr.
Des aveugles qui trouvent quelqu'un.
Bien sûr.
Moi, j'espère, quoi, parce que être seul et puis être comme ça, handicapé, c'est pas facile.
Oui, je sais bien.
Mais je suis jamais vraiment seule avec ma foi.
C'est pour ça que je vous dis, gardez cette lumière-là dans votre cœur, c'est ça qui va vous faire tenir.
Mais bon, comme je vous dis, il y a des moments où j'ai été plus mal. Puis je me demande aussi d'hiver. C'est aussi plus dur l'hiver. Donc moi, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas d'abord... Moi, j'ai essayé déjà en prendre deux. Pour voir. Et là, j'ai l'impression déjà que je dors mieux avec deux.
Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que vous faites un peu votre petite tambouille, là. C'est pas... C'est un petit peu bizarre, quand même.
Elle m'a dit, vous avez, quelque part, vous avez raison, il faut peut-être commencer par 30, qu'elle m'a dit. Au lieu de 60, bon.
Christiane, on tourne en boucle là-dessus, je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit. Soit vous lui faites confiance et vous faites ça, et vous y allez à fond, soit vous avez un doute, et j'ai l'impression que c'est le cas, et vous demandez un contre-avis. Mais faire vraiment, ça tambouille comme ça, ce n'est pas évident.
On peut éviter de grossir avec ça.
Ça, c'est compliqué. L'antidépresseur est un airbag psychologique et malheureusement souvent un airbag physique aussi. Mais quelquefois, ça vaut le coup d'être un peu ronde et d'aller mieux. Non, c'est une question de priorité aussi.
Ah oui, mais si déjà on a du mal à s'accepter, c'est pas évident.
Ça serait peut-être dans un second temps.
Non. Ben voilà, je vais essayer de voir si je peux avoir un avis de psy.
Voilà, un contre-avis. Et puis, une fois de plus, puisque vous êtes croyante et que c'est important pour vous, pensez chaque jour à vous tourner vers cette lumière-là.
Ah oui. C'est important, oui. Parce que moi, je savais, j'étais tellement bas, je me dis, mais comment les gens qui n'ont pas la foi, ils peuvent survivre quand on est vraiment détruit complètement. Moi, il n'y a plus rien qui m'intéressait. Le matériel, des amis, de la famille, il n'y avait plus rien à quoi m'accrocher. C'était la seule chose qui m'accrochait, c'était ma foi.
Bien garder cette belle foi, Christiane. Je me permets de vous embrasser.
Ben moi aussi, et puis je remercie pour cette émission qui m'a beaucoup aidée.
Et j'espère que la lumière vous prendra plus de place que l'ombre à partir de maintenant. Il faut qu'on se quitte, l'émission se termine. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission de ce soir, par téléphone ou par SMS. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve demain soir avec grand plaisir à partir de je ne sais pas, car nous avons une spéciale animaux. Et en raison du match de foot féminin, nous risquons de commencer l'émission un petit peu plus tard. Ce sera peut-être 23h30, ce sera peut-être minuit. En tout cas, on sera là et on sera là pour parler d'animaux. Si vous souhaitez témoigner, inscrivez-vous par mail libreantenne@europe1.fr.